Alors, bonjour tout le monde. Bon début de semaine. Ben, c'est ça. Je sais pas comment vous réagissez quand vous voyez ça. Grève étudiante pour la rémunération des stages. Moi, je dois dire, je suis, perplexe. Dubitatif. Sceptique un petit peu. Mais en même temps, tu peux pas juger si tu connais pas la cause. Tu peux pas juger sans d'abord savoir pourquoi. Alors, on a, je vous l'ai dit, Jean-François Roberge, je pense que c'est lui qui m'a déconcentré. Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation.
C'est un peu facile,
non,
ça.
Mais voir entre un ministre dans ton bureau.
Ah,
là.
Oui, ah, oui.
Ben oui, ça va bien, Jean-François Roberge?
Très bien, vous-même.
Ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, il est au Salon du Livre pour vendre son livre qui est. Il est tout vendu.
Ben voyons. Ben,
vous êtes en rupture de stock. Il est épuisé.
Je précise que je remets tous mes droits d'auteur à un organisme communautaire. Là. Je ne suis pas là faire de l'argent.
C'est bien. Mais cela étant dit, il est épuisé pareil.
C'est une bonne chose.
Ben oui,
les gens
oui.
s'intéressent à l'éducation.
Absolument.
Donc,
absolument.
On s'approprie l'éducation quand on lit des livres sur l'éducation ou sur autre chose.
Voyez-vous, hein, ça prend pas de temps. J'ai ouvert la porte juste un petit peu et ce n'est pas long qu'il l'a saisi. Mais juste avant de vous demander votre avis sur cette grève étudiante, on va aller rejoindre, pour un court instant, une des porte-paroles, justement, de ces étudiants qui font la grève. Je lui ai parlé il y a quelques minutes de ça, juste avant d'aller en onde. Elle s'appelle Sandrine Boisjoli. Elle est militante, fait partie de ce qui s'appelle, c'est vraiment typiquement mouvement étudiant, ça, les comités unitaires sur le travail étudiant. J'ai demandé à Mme Boisjoli pourquoi vous faites la grève.
En ce moment, les étudiants étudiantes se mobilisent pour demander la rémunération de tous les stages dans tous les domaines. Parce qu'il y a certains stages qui sont rémunérés, c'est traditionnellement dans les métiers masculins. Et justement, en ce moment, il y a un mouvement pour reconnaître que tous les stages sont du travail, surtout dans les domaines traditionnellement féminins qui ne sont pas rémunérés. Donc, c'est en ce moment pour ça qu'on lutte.
Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui vont dire, vous pensez pas là, que la grève, ça a fait son temps, qu'on a suffisamment payé pour la grève des carrés rouges, là, c'est pas une bonne idée de retourner en grève. Il y en a qui vont dire ça, là.
Oui, on est au courant que des personnes vont dire ça, sauf que la grève a prouvé que c'est un moyen de pression efficace. Pour l'internat en psychologie, elles ont été en grève pendant 3 mois, elles ont obtenu une petite compensation. En enseignement, en ce moment, on a une compensation pour notre stage final, alors que ça fait un peu plus de 2 ans qu'on lutte pour la rémunération des stages. Donc, on voit que la grève a un impact, fait peur aussi. On a reçu des menaces de notre administration nous disant que la grève, il allait avoir des répercussions pour ça. Donc, on voit que la grève est un moyen efficace, justement, de demander la rémunération de nos stages. Et la grève va surtout nous permettre de comprendre tout le travail qu'on effectue pendant nos stages, puisque durant cette semaine-là, bien, les stagiaires ne se présenteront pas en leur milieu et les milieux vont pouvoir constater, les autres personnes aussi vont pouvoir constater tout le travail qu'on effectue pendant qu'on est en stage.
Jean-François Roberge, est-ce que la grève est justifiée dans ce cas-ci?
Bien, on assiste un peu à du défonçage de portes ouvertes dans ce cas-ci, parce que quand j'étais dans l'opposition, déjà je parlais avec les regroupements étudiants, les associations étudiantes. En campagne, j'ai fait plusieurs débats, donc certains qui étaient organisés par les assos étudiantes. Je suis au courant de cette problématique du fait que certains stages sont compensés, d'autres sont rémunérés, d'autres c'est rien du tout. Et aussitôt que je suis arrivé en fonction, j'ai demandé au ministère, qu'en est-il? Il y a combien de stages au Québec? Combien sont des stages d'observation? Combien sont des stages de travail? Combien sont des stages de prise en charge? Il y a vraiment beaucoup de nuances, là. Puis du mur à mur, moi, je pense que c'est pas la bonne idée. Donc, je suis en train de faire un état de la situation pour éventuellement prendre la meilleure décision, mais c'est pas comme si le gouvernement était assis sur ses deux mains puis on apprenait quelque chose ce matin. Là,
pouvez-vous juste, pour monsieur et madame tout le monde qui nous écoute, là, juste nous résumer, nous vulgariser, c'est quoi l'enjeu? Parce que, a priori, les stages, c'est quoi? Là? C'est, par exemple, t'étudies pour être enseignant ou enseignante, à un moment donné, il faut que t'ailles dans une école pour passer un stage, pour faire un stage qui va, dans le fond, qui est nécessaire pour que tu aies le diplôme.
Oui, bien, je vais reprendre votre exemple, celui que je connais le mieux en ce moment, puis on est en train de faire des travaux pour tous les connaître, mais celui en éducation. D'abord, je les ai faits, moi, quand j'étais étudiant. Puis comme enseignant, j'étais maître associé, j'ai accueilli des stagiaires. Bon, quand tu fais ton bac en enseignement, c'est un bac de 4 ans, à chaque année, il y a un stage. Le premier stage, là, c'est essentiellement de l'observation.
Es-tu payé pour ça?
Non. Mais par contre, tu payes pour un cours où le cours te permet de te rendre en stage. C'est l'université qui te trouve ton lieu de stage et tu y vas sur le lieu de stage à l'école à la place d'aller à l'université.
OK.
Donc, c'est pas en plus des cours, là, c'est à la place des cours. Donc,
okay. Donc part, là, je pense pas que tu devrais être payé pour ça. Là,
c'est sincèrement,
ça fait partie de ton crédit. Ça fait partie des crédits.
Tu payes même. Tu pourrais apprendre là, dans ta faculté des sciences d'éducation à écouter un professeur d'université, mais à la place, tu as certains moments où tu es à l'UQAM ou à n'importe quelle université.
Ouais.
Tu reçois ton cours. Après ça, oups, la semaine suivante, tu vas plutôt en classe observer.
D'accord.
Tu reviens la semaine d'après à l'université, puis tu jases avec tes autres collègues. Vous dites, toi, t'as vu quoi,
d'accord,
etc. Bon,
écoutez, ça fait partie de l'apprentissage.
Ça,
c'est la première année.
Stage 1. Stage 2 ressemble beaucoup à celui-là, mais à un moment donné, on te demande de prendre la classe en charge. On te demande de prendre une heure, deux heures, une demi-journée. Le maître associé, donc le prof qui t'accueille dans sa classe, est toujours présent. Puis, il te fait des rétroactions à la fin de la journée, puis il te guide, il te coach.
Ça, t'es-tu payé, deuxième année?
Toujours pas. Le troisième stage, c'est un peu plus long. Là, il y a un peu plus de prise en charge. Là, il y a quelques semaines, je dirais même, de prise en charge où là, tu es le prof dans la classe, mais il y a toujours un autre prof, ton maître associé, qui est là. 80%, il est pas mal dans la classe. Des fois, tu es seul. Et le quatrième stage, ben là, en réalité, tu es pas mal l'enseignant titulaire. Et depuis l'an passé, le gouvernement libéral, et on était bien d'accord, ma formation politique, on était d'accord, on a fait cette bataille-là pour les convaincre, puis ils ont accepté de compenser financièrement.
Lors de la quatrième année.
Oui.
Seulement quatrième année pour le moment.
Stage 4 en ce moment en éducation. Et là, dans le fond, on a parlé juste d'éducation, mais on aurait pu le dire pour sciences infirmières, pour plein de choses. Mais en même temps, on voit qu'il y a des stages d'observation.
Oui.
Il y a des stages, des fois, qui se font à la place des cours, sur l'horaire des cours. Mais il y a des fois, il y a des stages qui se font, mettons, les soirs et les fins de semaine. Donc là, c'est en surplus des cours. Voyez-vous comme on peut pas arriver avec une mesure puis dire ça va régler tout.
Mais
il faut prendre conscience de la diversité des stages, puis il faut faire un état de la situation. Et c'est ce qu'on fait en ce moment. Je l'ai pas le portrait en ce moment, M. Drainville. Je m'arrange pour l'avoir.
Est-ce que les grévistes, là, les étudiants grévistes, demandent la rémunération, par exemple, si on reprend les stages en enseignement, est-ce qu'ils demandent la rémunération dès la première année? Est-ce que c'est ce que vous comprenez?
L'étudiante qu'on a entendue, là, juste avant qu'on se mette à discuter, oui, eux autres, ils demandent la rémunération, donc un salaire pour n'importe quel stage, même de l'observation.
Un salaire pour étudier.
On pourrait dire ça dans certains cas. Mais il faut faire attention, c'est pas tous les étudiants qui sont en grève aujourd'hui. Tu sais, on parle beaucoup des étudiants, en fait, qui sont pas en classe, mais la plupart des étudiants au cégep et à l'université, aujourd'hui, sont en classe. On parle beaucoup de ceux qui n'y sont pas, là, mais c'est pas tout le monde qui demande.
D'accord.
Il faut faire attention.
D'accord, mais moi, ce que j'ai compris dans l'entrevue que j'ai réalisée avec elle, parce que dans le fond, on a diffusé seulement un court extrait, à Saint-Laurent, au cégep Saint-Laurent, au cégep Marie-Victorin et au cégep du Vieux-Montréal, c'est seulement une partie des étudiants qui sont en grève, mais c'est l'ensemble de l'institution qui est en grève. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas permettre aux étudiants des autres programmes d'avoir accès à l'établissement. Là. C'est l'ensemble. Ce qu'ils m'ont expliqué, moi, c'est que c'est l'ensemble du cégep Saint-Laurent, l'ensemble du cégep Vieux-Montréal, l'ensemble du cégep Marie-Victorin qui est en grève, même si les étudiants qui font la grève pour le stage sont une petite minorité à l'intérieur de ces différents cégeps-là. Là. Même chose avec l'UQAM, c'est un certain nombre de programmes qui sont touchés. Est-ce que c'est l'ensemble des cours de l'UQAM qui sont...
Je pense pas que l'ensemble des cours de l'UQAM soit perturbé en ce moment, mais je trouve ça un peu excessif à ce moment-ci, je vais vous dire, alors que le gouvernement est au travail. On les a entendus. Je vous dis pas qu'on va dire oui à tout le monde partout, là. C'est pas ça que je vous dis. Mais ce que je vous dis, c'est qu'ils essaient de nous sensibiliser à quelque chose que l'on connaît, c'est-à-dire la diversité des stages et les possibles iniquités. Et on est en train de travailler sur des solutions. Moi, j'ai demandé à ce que toute l'équipe du ministère contacte les administrations des cégeps, les administrations des universités, des employeurs qui accueillent les stages.
Avez-vous le goût de leur
faire
dire,
un état de la situation?
Avez-vous le goût de leur dire, voulez-vous bien me laisser arriver comme ministre d'Éducation? Là, je suis au courant de la réalité. Laissez-moi arriver, laissez-moi prendre acte du problème, puis laissez-moi m'asseoir avec vous pour trouver des solutions plutôt que de vous sacrer en grève tout de suite. C'est ça un peu le message?
Est-ce que je dirais certainement pas dans ces mots-là.
Non,
mais Ce que je dirais, c'est qu'on est au travail, puis gardons le dialogue, mais c'est pas nécessaire de faire autant d'actions à ce moment-ci.
Bon.
Je pense que c'est prématuré, mais bon, écoutez, on n'empêchera pas les étudiants de manifester. Certains veulent manifester, qu'ils manifestent. Je veux pas qu'ils empêchent, par contre, ceux qui veulent étudier, d'étudier. Ça, c'est une nuance que j'apporte.
Très bien. Les stages qui sont concernés, là, en terminant pour cette partie de l'entrevue, service social, hein, ça revient souvent, les stages en sciences infirmières, sexologie également, il y a des stages. Tous ces stages-là, ils souhaiteraient qu'ils soient rémunérés. Bon, je veux vous parler de la saison des bulletins.
Oui.
Ben oui, parce que là, les premiers bulletins arrivent. Il y a des parents qui ont déjà reçu le premier bulletin de l'année. Il y en a d'autres qui s'apprêtent à le recevoir. On est dans la période où on doit aller rencontrer les professeurs à l'école et tout le reste. Il y a un papier ce matin très intéressant d'Alexandre Vigneault qui, dans le fond, pose la question: qu'est-ce qu'on fait quand on est confronté à un mauvais bulletin de notre enfant? Puis vous en avez évidemment côtoyé des enfants quand vous étiez prof.
Ouais, j'ai déjà eu l'odieux d'écrire d'écrire des notes en sachant que les parents peut-être ne les aimeraient pas. Souvent, il y a peu de surprises parce qu'on est en contact avec les parents tout le long de l'étape. Hein. Il faut faire attention.
Mais avez-vous un conseil à donner, mettons, aux parents? Vous avez été enseignant, vous êtes vous-même parent, vous êtes ministre?
Je vous dirais de relativiser, de prendre ça pour ce que c'est. Un bulletin, c'est une photo. Ça montre là où l'élève est rendu, supposons une semaine avant que le bulletin... Quand vous recevez le bulletin, déjà, il est un peu en retard. Là, il vous dit où était votre élève, votre enfant, il y a une semaine, il y a deux semaines. Mais c'est une photo. Moi, ce qui m'intéresse comme père, parce que je suis père de deux adolescentes, puis quand j'étais enseignant, c'est le film. C'est de regarder où est-ce que... Est-ce que les difficultés sont de moins en moins grandes ou de plus en plus grandes? De comparer l'élève avec lui-même, avec les bulletins précédents, avec les examens précédents. Et là, on voit la courbe. Si ça s'en va vers le bas, dans toutes les matières ou dans une seule matière, bien là, c'est le temps de lever le drapeau rouge et de savoir ce qu'il y en est. Première personne à qui parler, bien, c'est l'enfant. Quand il est tout petit, des fois, c'est un peu plus difficile. Puis c'est évidemment l'enseignant titulaire de classe. Puis c'est de savoir ce qui se passe, comment ça se fait. Des fois, c'est juste mauvaise influence, des amis qui tirent votre enfant vers le bas. Des fois, c'est un problème d'apprentissage.
Et puis, des fois, il y a besoin
comme
d'aide.
Parent, des fois l'enfant a besoin d'aide. Comme parent, vous êtes là pour faire équipe avec les enseignants et votre enfant. Puis ça se fait à l'année longue. Ça se fait pas la semaine après le bulletin. C'est ça que j'ai le goût de dire. Il faut accompagner notre enfant tout le long de l'année. Il faut s'intéresser à l'école, pas seulement le 24 heures ou le 48 heures qui suit le bulletin ou qui le précède. Puis il faut faire équipe avec les enseignants à l'année longue.
C'était quoi votre philosophie, vous, par rapport aux enfants dont vous étiez titulaire et par rapport à vos propres enfants, si vous me permettez d'aller là? Il faut trouver, je pense, un espèce de bon dosage entre le renforcement positif et, à un moment donné, l'attitude un petit peu plus exigeante de dire, ben là, il faut que ça se place, sinon il y aura des conséquences.
Ça dépend beaucoup de l'enfant. On peut pas avoir les mêmes exigences, disons, scolaires pour tous les enfants. Un enfant qui a toujours un petit peu en bas de la moyenne, qui est toujours, qui peine à réussir, qui est à 60, 65, des fois 55, 70 des fois, donc il flirte avec le seuil de réussite. Le jour où il y a un 68%, ben c'est peut-être extraordinaire. Il a peut-être donné tout ce qu'il avait, là. Il a étudié puis il est allé à la récupération. Puis ça se peut qu'un autre enfant qui se tient entre 80, 85, 95, le jour où il y a le même 68, ben c'est parce qu'il se passe quelque chose de grave. C'est parce qu'il est peut-être victime d'intimidation. C'est parce que il a été malade pendant une semaine, il a raté les cours. Donc, il faut vraiment regarder l'élève par rapport à lui-même, par rapport à ses évaluations précédentes. Puis d'abord, comprendre avant de sanctionner. L'objectif, c'est pas de sanctionner l'élève.
Non,
c'est
sûr,
de savoir
sûr,
comment
bien
on
bien
fait
sûr.
Pour l'aider.
Oui.
Puis il y a une équipe pour l'aider. On peut dire bien de choses. Là, le système scolaire n'est pas parfait. Mais chaque prof, je suis convaincu, chaque prof veut aider les parents à aider les élèves. C'est ce qui anime les profs, j'en suis convaincu.
Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui souhaiteriez vous adresser à Jean-François Roberge. Tu sais, d'avoir un ministre en studio, c'est précieux, franchement. Parce qu'il est très occupé. Je ne sais pas si ça vous tente de lui poser une question, peut-être 790-9850 ou encore 98-985. Sur la question des bulletins en particulier, si votre enfant a un mauvais bulletin, votre réaction, est-ce que c'est de regarder du côté du prof, de l'enseignant, de l'enseignante? Est-ce que c'est de regarder du côté de votre enfant? Vous l'avez sans doute déjà vécu pour certains d'entre vous. L'expérience que vous avez eue, par exemple, avec l'enseignant ou l'enseignante, quand vous avez été confronté à un mauvais bulletin, est-ce que c'était positif? Y avait-tu de l'écoute? Y a-tu un ajustement? En général, Jean-François Roberge, est-ce que vous, quand vous étiez confronté, mettons, à des mauvais résultats de la part de certains des élèves dont vous étiez titulaire, puis le père ou la mère vient vous voir lors de ces rencontres en soirée, là, on a rendez-vous, hein, puis il faut s'asseoir, puis il faut s'expliquer. Ça se passait comment? Puis est-ce que vous, dans la majorité des cas, vous étiez capable de renverser la tendance? C'était quoi le...
Souvent, oui, je vous dirais. Ça se passait la plupart du temps très bien. Il y a toujours des fois des parents qui arrivent, qui sont en colère contre l'enseignant pour la note de leur enfant.
Ouais.
Mais c'est l'exception. Il ne faut pas généraliser.
C'est vrai, ça?
Oui, c'est l'exception. C'est pas...
La plupart des parents reconnaissent la responsabilité d'abord de l'enfant dans le...
Ben, la responsabilité, ce n'est pas nécessairement fautif. Si le jeune, là, il a des difficultés d'apprentissage...
Non,
c'est pas fautif. C'est des mauvaises notes, puis il faut le blâmer. Démarche différente.
D'accord.
Il faut surtout comprendre quelles sont ses difficultés. Quand on dit qu'on doit amener chaque jeune à développer son plein potentiel, bon, on n'a pas tous le même plein potentiel en maths, en français, en histoire, en sciences. Puis, mais moi, ce que je veux dire, là, mon drame là, des rencontres de parents, c'est pas les parents qui viennent, c'est les parents qui viennent pas. Souvent, c'est ceux-là qu'on voudrait voir, c'est avec ceux-là comme enseignants qu'on voudrait tisser des liens, et ils ne viennent juste pas. Alors moi, je veux dire aux parents, même si vous avez des griefs, même si vous n'êtes pas d'accord, allez-y rencontrer des enseignants.
Frédéric, bonjour.
Oui, bonjour, ça va bien?
Très bien, vous écoute, mon cher.
Okay. Moi, mon garçon est au secondaire, il est en profil hockey. Mm-hmm. Il y a beaucoup de difficultés à l'école. Il réussit à penser souvent à la limite. Il est suivi par des spécialistes. Il y a des plans d'intervention qui sont donnés. Il y a il y a un portable. Il y a tout nécessaire pour l'aider. Mais tu as des problèmes à respecter les normes qui sont demandées, genre le tiers de temps. Le portable qui est souvent en problème, qui est souvent en réparation, puis en ont pas en échange. Rien pour l'aider. Là, dans les derniers examens qu'il a fait, je sais qu'en anglais, il a pas eu son portable. Mais les notes sont prises en considération pareil, malgré qu'il devrait être portable pour le faire. Là.
Votre question, Frédéric?
Ben, c'est-tu normal que les portables... Le portable, là, il se pourrait avoir un remplacement ou s'il est brisé, on l'enlève et le jeune s'arrange avec ses problèmes.
Hein? Merci, Frédéric. Réponse.
Écoutez, là, c'est dur. C'est un cas très, très pointu, très particulier. Normalement, dans les écoles, il y a assez d'ordinateurs portables pour combler quand il y en a un qui est en panne. On devrait être, surtout le temps d'un examen, ça se prête un ordinateur. Là, quand on est dyslexique, il y a des logiciels d'aide WordQ, en tout cas toutes sortes de logiciels qui peuvent aider les enfants. Comme ça, je comprends que l'élève dont on parlait, il y a quand même un bouquet de mesures autour de lui. Il y a quand même l'ordinateur, il y a un spécialiste, il y a ce qu'il faut. Puis j'ai l'impression que ce qu'il raccroche à l'école, c'est peut-être le hockey. Donc tant mieux.
C'est souvent comme ça pour les garçons, c'est souvent le sport. Hein?
Oui.
Faut pas
Oui, tant
ça.
Mieux s'il y a cette chance-là d'avoir un programme qui garde accroché sur la question spécifique de l'ordinateur. Cette fois-là, c'est dur pour moi de répondre ici en studio. Là.
On va vous laisser retourner au salon?
Oui,
retourner au salon du livre. Hein?
Ben, j'en arrive, là. Non, je vais après-midi, je vais devoir aller ailleurs. Mais
vous allez aller travailler?
Un bon 2-3 heures de visite du salon. C'est intéressant d'aller à la rencontre des auteurs et des illustrateurs. C'était magnifique.
Puis des lecteurs.
De
monsieur et madame tout le monde.
Il y en a pas mal d'enseignants
oui?
et d'élèves. Là, un jour d'école comme ça, au salon du livre, là, il y avait des centaines d'élèves qui allaient papillonner d'un kiosque à l'autre. Là. C'est encourageant. Savez-vous, M. Drainville, les jeunes, aujourd'hui, là, 10, 12, 15 ans, lisent plus que vous et moi à leur âge. On pense tout le temps que tout est sombre puis que les élèves lisent de moins en moins.
C'est vrai, ça?
Oui. Regardez
le
nombre de ventes de livres. La littérature jeunesse, se vend mieux que la littérature adulte et se vend mieux que les années précédentes. Donc, je vous le dis, moi, il y a de l'espoir.
OK. Puis si, juste en terminant, on me glisse la question à l'oreille. S'il y a une chose que vous souhaitez accomplir pendant vos quatre dernières, excusez-moi, c'est mon téléphone iPhone, décidément, c'est une drôle de journée. Mon téléphone iPhone qui s'active sans que je lui ai donné la permission. S'il y a une chose que vous souhaitez accomplir comme ministre de l'Éducation, une chose. Je veux pas une chose.
Donner des services pour les élèves qui n'ont pas la chance d'avoir fait de la facilité. Il y a un 20-25 % des élèves qui ont des besoins particuliers. Bien, donner des services particuliers à ceux qui ont des besoins particuliers. De tout le monde aille au bout de ses rêves, au bout de son potentiel. C'est pas pareil pour tous. On n'a pas tous les mêmes possibilités. Mais si on va tous au bout de nos rêves, c'est le Québec au complet qui avance.
Merci Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation, ministre de l'Enseignement supérieur. Bonne chance.
Merci à vous.
On s'arrête au retour. Les examens à l'hôpital de nuit. Les examens de nuit. Résonance magnétique, genre. 3h, 4h du matin, qu'est-ce que vous en pensez? Ils veulent de cette façon-là réduire la liste d'attente, qui reste quand même encore très longue. Mais moi, je trouve ça encourageant. Peut-être qu'on aura le temps de prendre des appels, mais on va certainement faire le portrait de la situation.